avec Benoît Marchal.
Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue.
Aujourd'hui, c'est une émission commentaires et réactions, mais j'aurai également le plaisir d'accueillir un invité pour parler de livres photos et d'un logiciel pour les créer. Commençons par une belle mise en abîme, puisqu'il s'agit des réactions à la dernière émission de commentaires, soit celle de juin. D'abord, on a eu un souci technique avec cette émission, ce que Fanoverbug signale. Le souci est depuis corrigé. On a dû réinstaller une assez grosse évolution sur le site pour que ce type de problème, on l'espère, ne se reproduise plus. J'en profite pour le rappeler, quand vous rencontrez un problème sur le site, dites-le, en précisant quel navigateur vous utilisez. On ne sait pas toujours tout corriger ou corriger tout aussi vite qu'on le voudrait, mais ce qui est certain, c'est que tant qu'on ne nous dit rien, on ne peut pas corriger les problèmes. Ensuite, Gérald Geronimi confirme que le prix de Lightroom 3 est très correct vu le gain de productivité que le logiciel apporte. C'était un des sujets de discussion dans cette émission précédente. Quant à Gilles, il trouve que ça va dépendre de l'utilisation. Pour l'amateur qui se sert de logiciel une seule fois par mois, c'est cher. Et je crois que pour une utilisation aussi occasionnelle, il vaut beaucoup mieux acheter Photoshop Elements, qui utilise le même moteur de rendu, même si effectivement la dernière génération pour le moment n'est pas encore disponible sur Photoshop Elements, mais c'est une question de temps. Et la gestion des photos est à mon sens beaucoup plus adaptée à des petits volumes. Juin 2010, la discussion sur les objectifs avec Mercury et Tamron, Ludovic a apprécié cette discussion et est bien d'accord avec nous, un mégazoom complet des focales fixes mais ne les remplace pas. Wumpat, s'il ne devait choisir qu'un seul objectif, opterait pour le 35 mm ultra lumineux. Flodine apprécie de voir les choses sous l'angle du constructeur et elle approuve notre remarque sur l'importance de choisir une focale qui correspond aux intérêts du photographe. Ainsi, elle a récemment acheté un 80-200 pour se rendre compte ensuite que c'était pas une amplitude qui lui convient. Gilles trouve également que l'invité était très intéressant et honnête puisqu'il parle également de produits qu'on trouve auprès de la concurrence. Invité d'autant plus intéressant que Gilles et Marc partagent le même objectif chouchou, le 28-75 lumineux de Tamron. Signe qu'il en faut pour tous les goûts, Phil se trouve quant à lui que la question n'aurait pas dû être posée à un fabricant. Non pas parce qu'il n'a pas eu un discours correct, mais parce qu'il pousse à la consommation en mettant en avant le vaste choix. Il ajoute d'ailleurs être bien équipé en optique et prend beaucoup de plaisir avec le fameux 35 mm. Juste pour conclure sur les interviews avec les fabricants, je sais qu'il y a beaucoup à apprendre de ces rencontres parce que moi j'apprends beaucoup lors des conférences de presse, des rencontres avec les chefs produits en lisant les dossiers, etc. Bien sûr, il faut prendre tout cela avec un esprit critique, mais je crois qu'il faut avoir le même esprit critique quand un photographe, quand un utilisateur vient de nous parler d'une technique qu'il utilise. Par exemple, quand quelqu'un vient nous parler du HDR ou du sténopé, il faut avoir l'esprit critique de se dire « bon, il me présente un logiciel, il me présente un bouchon d'objectif un peu spécial, est-ce que moi j'ai intérêt à acheter ce logiciel? Est-ce que moi j'ai intérêt à acheter cet appareil ?» Ben pour moi, il faut exactement le même esprit critique quand on écoute un fabricant. Mais comme le faisait remarquer Flodine, il y a un angle assez particulier qui peut aussi être instructif. Juillet 2010, une émission sur le studio Harcourt qui contribue à Wikipédia. Nadine Mentez est ravie de voir qu'un grand studio relève le défi du partage des photos et explore lui aussi cette voie. Juillet 2010, la visite de l'Idéal Studio. Flodine confirme qu'il a l'air très agréable ce studio pour y travailler. Toujours en juillet, photographie un concert de Metallica. Merwin trouve le portfolio d'Anthony Dubois trop photoshopé. Ceci étant, il reconnaît que le style est efficace. Horatio, quant à lui, aime beaucoup les ambiances qui se dégagent de ses photos. Personnellement, je suis tout à fait d'accord que c'est très photoshopé, mais le métal, et j'avoue que c'est un genre musical que je ne connais pas très bien, mais le métal m'a toujours paru comme une musique très mise en scène. Et donc je trouve que le style des photos très post-traitées colle assez bien à l'image que je me fais de la musique. Enfin, la dernière émission de juillet, mieux photographier les chats, Flodine apprécie le sujet et ajoute qu'elle aura bientôt un iPad et qu'elle rêve d'une application déclencheur. J'ai un iPad depuis peu et c'est vrai que c'est absolument génial comme petit gadget. J'ai encore eu l'occasion de l'essayer qu'une fois en déplacement, mais c'est tellement moins lourd quand je pars sur Paris que le MacBook Pro, c'est fabuleux. Donc je suis également d'accord, ce serait bien une application iPad. En attendant qu'elle arrive, il est possible de synchroniser des émissions de déclencheur depuis iTunes et l'iPad et donc de télécharger automatiquement les émissions sur l'iPad. Déclencheur Silver est même accessible directement depuis iTunes sur l'iPad. Je vous ai promis un invité, c'est notre ami Francis Courtois qui contribue régulièrement au Wikinews de Déclencheur. Il y contribue sous le nom de Courtox. On lui doit de nombreux comptes rendus, toujours très fouillés, très complets, sur différents produits. Et récemment, il a publié le résultat mais d'un énorme test d'un logiciel PhotoArtist. C'est un logiciel qui permet de réaliser des livres. Moi, je pensais à une espèce d'e-photo, mais vous allez l'entendre avec les explications de Francis. C'est différent et apparemment, ça mérite franchement le coup d'œil. Francis, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Donc Francis Courtois, tu es l'exemple de tous ces tests et comptes rendus qu'on fait sur le wiki. Là, tu viens d'en réaliser un avec carrément toute une petite équipe autour d'un logiciel qui t'a pas plu au début et en final a fini par te séduire, si j'ai bien compris. PhotoArtist, c'est quoi au juste?
Une bonne question. C'est sûr, au début, il m'a pas beaucoup plu puisque moi, je suis un gars très ancien, si on veut, très classique. Moi, j'adore les livres noirs, crème, avec les photos bien carrées qui occupent toute la place. Le papier est en chair, je veux que ma photo soit sur l'ensemble, quoi. Donc le logiciel, lui, était très très coloré, donc c'était pas vraiment ma tasse de thé.
Mmh.
Une petite équipe pour éviter d'être tout seul face à quelque chose qu'on connaît pas et donner son avis trop brutalement. Donc j'ai bâti une petite équipe avec trois dames du club photo. Des volontaires, donc il y a eu Barbara, il y a eu Nathalie et Bernadette. Comme ça, on a pu comparer nos vues.
Et donc, au final, ça vous a quand même plu. Mais il fait quoi au juste, ce logiciel?
Ah oui, oui. Donc, au début, on pensait que c'était un logiciel tout simple, comme tous ceux qu'on trouve sur le net, ou comme iPhoto, ou comme ce qu'on a sur Lightroom. Non, l'objectif, c'est de regrouper ces photos et puis de les présenter bien carrées, bien centrées sur un fichier PDF et de l'amener à un imprimeur. Alors que là, avec PhotoArtist, on se trouve comme un pilote de chasse face à un outil de composition pour faire des photos bien positionné ou pas. Donc on peut faire exactement comme iPhoto, hein, un truc classique. Mais aussi on peut faire des photos qui soient penchées, inclinées. Et surtout, si on a pensé à une histoire, si on a bâti un petit scénario de présentation de ces images, eh bien on va pouvoir enchâsser ces belles photos, légèrement inclinées ou pas, dans des cadres de pages, dans des fonds de pages très colorés, animés. Et surtout, avec des objets en ligne, avec l'histoire qu'on veut raconter. Donc c'est ce que je cite là dans mon petit analyse sur ton site. J'ai pris des photos de Zoulou qui était venu à Montpellier il y a un an. Et puis bon, mais j'ai mis des couleurs qui font penser à la savane ou à la forêt. Et puis des objets qui font penser au voyage. C'est-à-dire des petites valises, des jumelles, des appareils photos. Et ces objets, on peut les bouger, les positionner où on veut.
Mais quand tu le dis comme ça, ça ressemble quand même assez à iPhoto.
Oui, oui, mais le résultat est étonnant, très différent justement avec tous ces objets. Bon. Au début, on a des objets, il y en a des milliers, hein, donc c'est une bibliothèque immense d'objets et d'effets. On peut faire des cadres différents, on peut faire des effets d'image, on peut mettre du texte, on peut mettre des effets sur le texte, mais surtout on peut faire des effets globaux. Donc en un clic ou deux, on peut personnaliser un ensemble d'images. J'ai essayé de voir comment je peux être loupé à un moment, j'ai pris, je sais plus, 20 ou 50 photos, et puis je les ai téléchargées dans le logiciel, puisqu'en fait on passe pas par Internet, le logiciel est sur ta machine. Et là, j'ai obtenu un livre en faisant un seul clic en disant « je veux ces photos-là ». Une fois que je les ai eues, le thème m'a plu, j'ai rangé, j'ai fait le fichier PDF, je suis à l'imprimeur. Et là, j'avais un fichier contenant mes images, très coloré, avec des petits trucs. J'ai pris des photos de mariés, il y avait des voiles de mariés, il y avait des verres, des machins, des trucs. Bon, c'est automatique. Alors l'idéal, c'est ce qu'il va faire dans la prochaine version, c'est qu'on peut créer ces objets soi-même. Donc on pourra faire des découpages de photos et puis s'en servir comme objet. C'est bon, ce qu'on appelle le scrapbooking en américain, ce qui est un mot un peu affreux, mais c'est ça. Bon, dans le temps, du temps de la Miss Victoria, on découpait le voile de la mariée et on le collait dessus. Donc ça faisait référence, et chacun se souvenait de ce moment-là parce qu'il est enrichi. C'est comme le livre sur la communion du petit ou sur n'importe quel événement. On va mettre le bouchon de la bouteille qu'on a débouché à 20 copains et puis on s'envoie le livre. On fait des rondelles avec le bouchon, donc c'est ça le scrapbooking, hein, c'est des ajouts.
Ça joue autour de la photo.
Le bon point aussi par rapport à, continuons de citer iPhoto, pourquoi pas, c'est que là on a en direct les développeurs et puis il prend en compte l'avis des utilisateurs très très vite. D'une version à l'autre, on retrouve tout ce qu'on a demandé. Et puis il nous demande même notre avis. Voilà ce que j'ai reçu comme demande, essayer de me mettre une priorité. Voilà.
Dernière chose, il a un business model assez original parce qu'on ne paye pas le logiciel, on paye les pages.
Ça peut peut-être surprendre au début. C'est-à-dire qu'on télécharge le logiciel gratuitement, mais sur sa machine. On est le pilote de chasse avec ses photos, on compose tout ça. Tout ça, c'est gratuit. Puis à un moment donné, on dit ça me plaît bien. Et bon, bah, j'ai envie d'envoyer ces pages directement à des copains. Alors à ce moment-là, on dit qu'on fait une commande et on va payer au moment de la création, un, du fichier PDF qui contient toutes ces images. En fait, il y en aura deux. Il y aura même un fichier PDF professionnel pour les grandes composeuses Xerox, mais pour l'instant, on s'en fout un peu. Et puis, il nous donne les images page par page en JPEG, basse résolution, haute résolution, pour mettre en fond d'écran, par exemple, ou pour l'envoyer par mail à des copains. Et c'est là le moment où on paye. Alors, n'oublions pas qu'on paye une deuxième fois. C'est quand on va chez un imprimeur et qu'on donne le fichier PDF.
Oui, bien sûr.
Il y aura toujours 4, 5 euros, 10 euros, 20 euros à sortir pour le composer.
L'idée est originale parce que ça veut dire quelque part que tu peux essayer. Et puis, en final, si tu fais peu de livres, c'est pas cher. Et à l'inverse, t'en fais beaucoup, là, ça doit revenir très cher.
Voilà, donc ça c'est une remarque qu'on lui a faite, et plusieurs. Du coup, il a décidé de faire une coopération avec un imprimeur local qui permettra à ce moment-là de diminuer les prix, puisque s'il y a, je sais pas moi, 50 ou 100 utilisateurs qui commandent un livre, ça sera globalement le prix qui va baisser grâce à ces 50 demandes d'un livre.
D'accord.
Voilà. Donc ça c'est des idées auxquelles il n'avait pas pensé au début, puisqu'il voulait être autonome, mais C'est un développeur, donc il ne veut pas s'encombrer du réel. Mais là, ça y est.
Ok, bah écoute, donc je rappelle, sur le wiki, vous avez le test de photo artiste et vous avez une foule d'informations autour du logiciel. En fait, vous avez vraiment fait un boulot énorme. Donc, je crois que ça vaut la peine d'aller lire. Tout ça, c'est sur www.déclencheur.com. Merci, Francis.
Merci, Benoît.
Ceci n'est qu'un minuscule aperçu du compte-rendu disponible sur le Wikinews, donc je vous invite à vous y rendre et à le lire vous-même. Dans les émissions plus anciennes, un message d'encouragement fort sympathique de Mekezuni. Juin 2007, comment photographier la foudre ? Thierry D nous présente un petit montage électronique pour détecter la foudre. Sur l'émission de février 2008, concernant la réponse de Pentax entre le DNG et le format PEF, on se souvient que Pentax avait annoncé une petite paire de données, Lidl demande si on est toujours au même point deux ans après, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quels sont les 10% de données manquantes. Est-ce demande-t-il les 2 bits supplémentaires du RAW 14 bits ? Alors clairement non. Pentax n'a effectivement pas communiqué de façon précise quelles informations sont manquantes dans le DNG, mais ce sont des métadonnées, pas des données images. Et depuis d'ailleurs, Adobe a fait pas mal évoluer le format DNG, normalement sous les conseils, sous les demandes des fabricants, donc on peut espérer que le problème est en train de se résorber. Janvier 2010, comment recruter un modèle photo ? Raphaël Devin est dérangé qu'Eléa ne trouve pas utile de montrer son corps au photographe et il rapporte avoir été, je dirais en résumant, trompé par un modèle dans le passé. Je crois que le but de cette émission est de prendre conscience qu'il y a vraiment une rencontre entre deux êtres humains et donc forcément des attentes et des regards différents et qu'il faut quand même faire preuve d'un petit peu de respect. Sur l'émission d'avril 2010, sur l'impression et la gestion de la couleur, Night Angel pense que la toute première question à se poser avant de la gestion de la couleur est de savoir s'il faut une imprimante photo. Certes, il ne remet pas en cause la rapidité et la qualité très supérieure des imprimantes photo, mais dit-il, attention au coût. Sur l'émission d'avril avec le Lumix GF1, Fred B partage notre plaisir, tout simplement. Les portraits d'enfants sont plus nets que jamais, dit-il, mais le GF1 est un peu bruyant sur les mariages. Et c'est vrai que quand on le prend en main pour la première fois, il est étonnamment bruyant, le GF1. Ceci étant, c'est une caractéristique qu'il partage avec les autres compacts à objectifs interchangeables, style les Nex de Sony ou les Pen d'Olympus. Et la raison est en fait très simple et purement technique. L'obturateur est ouvert pendant la visée, forcément, sinon il n'y aurait pas de visée live view, il n'y aurait pas de vidéo. Donc l'obturateur doit se refermer et puis se rouvrir, ce qui fait un supplément de bruit. On continue avec l'émission sur la photo 3D, la rencontre avec Michel-Patrick Loret. Raphaël a beaucoup apprécié l'émission Gold. Michel-Patrick, précise-t-il, est passionné et passionnant. Je suis tout à fait d'accord et quand je vois les choses nouvelles qui sont en train de sortir autour de la 3D, je crois qu'on avait vraiment là fait une belle émission. Juin 2010, pour terminer, l'émission La photo est aussi un métier, Frédéric Creusat ajoute qu'on a vu Christophe Lers, notre invité donc, on l'a vu au JT de France 2 le dimanche 27 juin à propos de ces fameuses séances d'engagement. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous invite à visiter www.déclencheur.com pour retrouver toutes nos émissions, le Wikinews avec par exemple ce test de photo artiste et enfin le blog Carnet. C'est sur Déclencheur que vous pourrez laisser vos commentaires. Je vous rappelle, les émissions s'écoutent bien entendu sur le site, mais il est plus facile de les télécharger sur un iPhone, un iPod ou n'importe quel baladeur ou téléphone multimédia pour les écouter en voiture, en train, en métro, pendant un editing un peu long, une balade de repérage, bref, où vous voulez, quand vous voulez. À bientôt !